Donc, je ne sais pas si le thème est clair, parce que vous pensez que je vais vous parler de quoi? La messe, bon, ça c'est déjà bon. Alors, les racines juives, c'était l'autre fois, hein, donc cette fois-ci, ça sera grosso modo cette fois-ci de Jésus jusqu'à la messe de Saint-Pie-V, pour faire simple. Et la fois prochaine, ce sera grosso modo à partir de la messe de Saint-Pie-V et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous savez déjà pour décembre. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors donc ce qui est clair, c'est que quand Jésus a institué l'Eucharistie le jeudi saint, il n'avait pas mis de chasuble, il n'avait pas pris un calice cachère, si je peux dire. Il n'avait pas de lectionnaire, et voilà. Et il n'avait pas de missel, voilà. Donc, mais après, du coup, ben, il a laissé ça, il a donné ça, confié ça à ses apôtres. Après, ben, c'est eux qui ont dû organiser. Alors, il a donné le cœur, mais après, ils ont dû organiser. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment il a confié le trésor de son Eucharistie. Et puis après, voilà, c'est à son Église qu'il a confié d'organiser la liturgie, on pourrait dire. Et en même temps, quand l'Église organise la liturgie, elle ne le fait pas de manière arbitraire, mais elle essaie de se référer à ce qu'a voulu Jésus. Alors, je vous lis Joseph Ratzinger, vous connaissez cet homme-là. « La liturgie n'est pas le fruit de notre propre décision arbitraire. Elle est l'expression de la foi de l'Église transmise à travers les siècles. » La liturgie est une réalité vivante qui, précisément parce qu'elle vit, se développe, mais elle ne peut se développer qu'en demeurant elle-même et en gardant son identité avec la foi de l'Église à travers les âges. Voilà, alors donc, on va voir toutes les évolutions de la liturgie, mais avec ce souci, en tout cas ce désir qu'a l'Église d'être vraiment fidèle à ce que Jésus lui a confié. Donc là, je crois que sur le site, j'ai mis jusqu'au mouvement liturgique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce mouvement liturgique, mais au XIXe siècle a commencé un mouvement qui a se reposé des questions sur la liturgie, etc., et qui a conduit finalement au Concile Vatican II. Mais Vatican II n'est pas né du jour au lendemain. Voilà, c'est quelque chose qui a été mûri pendant quand même un certain nombre de décennies. Voilà, alors aujourd'hui, je vous propose 6 étapes. Alors, la première, c'est du Nouveau Testament jusqu'au milieu du IIe siècle. Ça, c'est peut-être l'étape la plus importante, en quelque sorte, même si les autres ont leur importance aussi, mais parce que Jésus les laisse là le soir du Jeudi Saint, et comment faire les choses. Alors, je vais retenir 4 éléments dans cette première étape, jusqu'au milieu du IIe siècle, donc vers l'an 150, donc un peu plus d'un siècle. Le premier élément, c'est le fait que vraiment ils vont se concentrer sur le récit de l'institution de l'Eucharistie. Mais bienvenue. Ils vont se concentrer sur le récit de l'institution. Et alors, ce que vous voyez dans l'évangile de Saint-Luc, vous pourrez regarder, quand on parle du récit de la dernière scène, il y a plusieurs coupes, en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais quelquefois, on n'y prête pas trop attention, etc. Mais je vous invite, vous pourrez le voir, là je vais lire 2-3 choses, mais vous pourrez aller vérifier que je ne vous dise pas des bêtises. Hein. C'est au chapitre 22 de Saint-Luc, entre les versets 14 à 20. Je ne vous lis pas absolument tout, si. Au verset 14. « Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, c'est une première coupe, il dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, une coupe. Verset 19. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et verset 20, et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Alors, donc là on voit il y a deux coupes. Alors, en fait, si vous vous rappelez, dans le Seder, on a parlé la dernière fois un peu du Seder, ce repas c'était un repas rituel, c'est pas un jour Jésus a dit tiens je vais prendre du pain et puis... Non, ça s'inscrivait dans un repas rituel. Donc, il y a quatre coupes même dans le Seder. Là, Saint-Luc rapporte, parle de deux coupes. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, il y a la première coupe, après, il y a la consécration du pain qui devient le corps de Jésus, et après, il y a une deuxième coupe dans tel que. Mais entre la consécration du pain et celle du vin, on va dire, il y avait la place du repas pendant le Seder. Mais très vite, ils vont dissocier le récit de le Seder du repas. Et ils vont se concentrer plutôt sur la consécration du pain et du vin. Mais le repas, ça sera après. Et il y a un petit témoin de ça, c'est Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. C'est juste pour qu'on ait bien conscience que ça ne s'est pas fait forcément du jour au lendemain. Et ils se sont dit, non, il y a des choses qui ne collent pas, on va faire un peu différemment. Et au chapitre 11, dans la première épître aux Corinthiens, voilà ce que dit Saint Paul. Voilà, c'est vers l'année 55, plus ou moins. Lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Méprisez-vous donc l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Que puis-je vous dire? Vous félicitez? Oh non, pour cela, je ne vous félicite pas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, et un peu plus loin, et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Donc, c'est au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Donc, on voit déjà, bon, il voit un peu comment ça se passe et du coup, les choses vont... Et c'est pour ça que quand Matthieu et Marc, quand ils vont rapporter le récit de l'institution, ils ne feront pas référence à la première coupe. Ils font déjà, au temps de la rédaction, voilà, c'est consacre le pain, et puis après consacre le vin, il n'est pas question du repas entre deux. Voilà, et il y a quatre verbes qui articulent un peu ce moment, c'est Jésus prit du pain, puis une coupe de vin, il rendit grâce, prononça la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples. Et là, on a déjà la deuxième partie de la messe, quasiment, avec l'offertoire, la prière eucharistique, le récit de l'institution dans la prière eucharistique, la fraction du pain consacré et la communion. Donc, déjà, là, on a la deuxième partie, on pourrait dire, de la messe qu'on voit assez vite, ça va, c'est assez clair ce que j'essaie de vous dire. Bon, après, donc, c'est le premier élément dans cette première période. Un deuxième élément dans cette période, c'est l'introduction de la lecture des Écritures. Alors, pour nous, c'est donc la liturgie de la parole. Et vous en avez un indice, c'est plus qu'un indice, dans le récit des disciples d'Emmaüs. Hein, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui se passe dans le récit des disciples d'Emmaüs ? Au début, ils sont tout découragés, ils marchent comme ça, et puis nous espérions qu'ils s'ouvraient. Et alors Jésus reprend l'écriture, leur explique, Et il fait semblant d'aller plus loin. Quand ils arrivent à l'auberge, il dit: non, non, reste avec nous. Et à ce moment-là, c'est la fraction du pain. Et donc, c'est l'Eucharistie. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Et voilà. Mais du coup, là, on voit les deux parties de la messe déjà, à ce moment-là, qui sont manifestes dans ce passage de l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire rapidement. Alors, c'était un peu dans leur culture aussi de comprendre, de lire la parole de Dieu, parce qu'ils allaient à la synagogue, et la synagogue, c'était vraiment le lieu où ils méditaient la parole de Dieu. Alors, on en trouve aussi des traces, on pourrait dire, dans les Actes des apôtres. Il y a au chapitre 2, voilà, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et alors au chapitre 20, si vous allez au chapitre 20 des Actes des apôtres, le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit. Ne vous plaignez pas que les homélies soient trop longues, hein. J'ai l'impression que Saint Paul. Et alors, c'est là qu'il y a un jeune qui est assis sur le bord de la fenêtre, il tombe, il est mort. Et alors, Saint Paul le ressuscite, il remonte, il rompit le pain, il mangea, puis il conversa avec eux assez longtemps jusqu'à l'aube. Ensuite, il s'en alla. Hein, donc, mais on voit d'abord cette méditation sur les Écritures et après voilà. Donc on a déjà les deux grandes parties de la messe déjà qui s'ébauchent, ça devient un peu plus clair. Toujours un troisième élément, c'est des premières vraiment du premier siècle qui a suivi Jésus, c'est l'importance donnée au dimanche, hein, le premier jour de la semaine. On voit dans les Actes au chapitre 20, hein, c'est le premier jour de la semaine qu'ils se réunissent pour la fraction du pain. On trouve ça dans la Didaquée, hein, c'est un document autour des années 100 après Jésus. On trouve Saint Justin aussi en parle. Le jour qu'on appelle du soleil, tous ceux qui habitent les villes ou les campagnes se réunissent en même lieu. On lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes aussi longtemps qu'on le peut. Quand le lecteur a terminé, le président fait une exhortation, donc fait une homélie, et invite à imiter ses beaux enseignements. Puis nous nous levons tous ensemble, faisons des prières, et comme nous l'avons déjà dit, lorsque les prières sont terminées, on apporte du pain, du vin et de l'eau. Le président fait alors monter des prières et des actions de grâce à Dieu autant qu'il le peut, et le peuple répond « Amen ». On distribue à chacun des présents et on envoie aux absents par les diacres. Hein, donc ça, c'est vers 150, plus ou moins, après Jésus. Donc là, on voit que les choses se précisent. Il y a un quatrième élément qui est important aussi à cette époque déjà, c'est que ce n'est pas tout le monde qui célèbre l'Eucharistie, hein. C'est déjà, on voit, alors au début, c'est la place des apôtres, mais après, on voit aussi la place de l'évêque. Alors, c'est comment il s'appelle? Ignace d'Antioche, qui dit: ne faites rien en dehors de l'évêque, de ce qui intéresse l'Église. Ne tenez pour valable que l'Eucharistie célébrée sous la présidence de l'évêque ou de son délégué. Hein, le prêtre, c'est en quelque sorte le délégué de l'évêque. Voilà. Donc, on voit, en tout cas, ces quelques éléments qui se précisent. Donc, jusque 150. Après, deuxième étape que je voudrais aborder avec vous, c'est du deuxième, donc de 150, jusqu'au quatrième siècle. Quatrième siècle, alors il y aura une étape décisive, c'est le moment où l'Église sort des catacombes, si je puis dire, hein, avec l'édit de Milan en 313. Donc après, vous verrez qu'il y aura une autre étape qui commencera à ce moment-là. Mais là, c'est une époque qui est très riche aussi, où ils se creusent la tête pour essayer de comprendre les choses. Ça correspond aussi à toute la période où ils réfléchissent sur la Trinité. Au début, Donc il y a plein d'hérésies un peu, qui vont un peu dans tous les sens, et petit à petit, alors il tâtonnait, hein, donc c'est un peu normal pour trouver les bons mots pour exprimer la foi. Et donc cette année, vous savez quel est le concile dont on célèbre la Nicée, hein, en 325, donc c'est juste après le... Donc tout ne va pas être encore conclu à Nicée, mais c'est quand même une étape complètement décisive, Nicée, où voilà notre foi en la Trinité, que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a le credo, le symbole de Nicée-Constantinople. Hein, c'est Constantinople, ça confirmera Nicée, ça ira un peu plus loin, on peut dire, en 381. Mais vous voyez toute cette période déjà avant Nicée, parce que Nicée vient comme à poser son sceau, mais sur un développement qui c'est une réflexion. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est on voit que il y a différents éléments qui vont se structurer pendant du deuxième au quatrième siècle. Là, vous pourrez regarder, si ça vous intéresse, la prière eucharistique d'Hippolyte. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la prière eucharistique d'Hippolyte? Alors, c'est du deuxième siècle, hein, on est au début du troisième, vers 215, enfin plus ou moins. Et alors, il y a déjà toute une prière eucharistique. On voit entre le début où il y a juste consécration, et là, toute une prière eucharistique. Là, la prière, en fait, la prière eucharistique numéro 2, c'est une reprise de la prière d'Hippolyte du deuxième siècle, du début du troisième, on va dire. Et pour faire le lien avec tout le développement sur la Trinité, on voit bien que la prière est orientée vers le Père. Hein, c'est dans la messe, on s'adresse au Père, exceptionnellement on s'adresse à Jésus, mais habituellement c'est par lui, par Jésus, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, hein. Donc, mais tout ce mouvement, toute cette manière de se situer dans la prière, c'est déjà bien présent dans cette prière d'Hippolyte. Vous pourrez, si ça vous intéresse, retrouver ça sur internet, vous n'aurez pas trop de mal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette prière. On voit aussi l'anamnèse après la consécration. On voit une épiclèse où vous voyez ces mots barbares. Hein, l'anamnèse, bon, ça vous connaissez à peu près. Il est grand le mystère de la foi. Voilà. Et puis, juste après la consécration. Et l'épiclèse, c'est plutôt la prière après. Avant la consécration, on impose les mains pour invoquer l'Esprit Saint sur les offrandes, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus. Mais après la consécration, c'est sur le peuple, sur le peuple de Dieu qu'on impose, pour ainsi dire, les mains, pour invoquer l'Esprit Saint sur tout le peuple de Dieu. Donc ça se trouve déjà dans cette... elle se termine aussi par une prière doxologique, par lui, avec lui, en lui. Hein, donc... voilà, on voit que déjà les choses se structurent pendant toutes ces années-là. C'est pas des bons. Voilà, il y a toute une réflexion. C'est aussi une période où les ministères dans l'Église. Alors bon, on trouve déjà les diacres dans les Actes des Apôtres, mais là, ça structure davantage. Celui qui préside, c'est l'évêque, et après le prêtre qui les diacres assistent, proclament l'évangile, distribue la communion. Voilà. Donc les rôles des uns et des autres se précisent, on va dire, dans la célébration de la messe. Ça va toujours? Alors, j'arrive entre le 4e et le 6e siècle. Là, il y aura... Ça va... Alors le titre, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais c'est la romanisation et la liturgie latine. C'est l'Église romaine. Hein, donc jusque-là, c'est vrai que jusque-là, c'était beaucoup dans le Moyen-Orient aussi. Bon, il y avait des chrétiens à Rome et Pierre est mort à Rome le premier siècle. Mais là, donc, Rome prend davantage de place aussi. aussi parce que justement c'est la fin des persécutions et que donc en 313, donc ça veut dire que très vite ils vont pouvoir construire les grandes basiliques romaines. Donc Saint Jean de Latran en 324, c'est donc ça vient assez vite. Saint Pierre au Vatican, Saint Paul hors les murs. Saint Pierre et Saint Paul, c'est encore en quelque sorte des grands reliquaires. C'est au-dessus de la tombe de Pierre et de Paul. Et puis Sainte Marie Majeure. On voit que c'est des grands édifices. Jusque-là, l'Eucharistie était plutôt célébrée dans les maisons. À partir de ce moment-là, il y a des édifices. Mais avec les édifices, du coup, il y a aussi toute une liturgie qui se met en place un peu plus solennelle, etc. Quand vous êtes réunis dans une maison, c'est quand même un peu moins solennel que quand vous êtes à Saint-Pierre de Rome. Bon. Et au passage, c'est intéressant, j'ai repris un petit paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, qui, je vous le lis. C'est au numéro 1180. Lorsque l'exercice de la liberté religieuse n'est pas entravé, les chrétiens construisent des édifices destinés au culte divin. Ces églises visibles ne sont pas de simples lieux de rassemblement, mais elles signifient et manifestent l'Église vivant en ce lieu, demeure de Dieu avec les hommes réconciliés et unis dans le Christ. Voilà, donc c'est la place des bâtiments, on va voir. Je vais retenir trois éléments dans cette période du 4e au 6e siècle. On passe du grec au latin. C'est pas le latin depuis toujours. Non, au début, ça se faisait en grec. Et d'ailleurs, on en a quelques restes. Kyrie eleison. Le grec, c'était la langue commune jusque-là. Là, donc, vers la fin du 4e siècle, c'est le latin qui devient la langue liturgique dominante à Rome. Donc, là, on passe du grec au latin. Et en même temps, plus ou moins, Saint Jérôme, qui est mort en 420, c'est lui qui traduit aussi la Bible en latin. On voit que le latin, c'est plutôt de cette période qui est... Voilà, et du coup, ça favorise aussi une unité linguistique. Voilà ce que dit Saint Jérôme. Il ne s'agit pas de changer la foi, mais la langue. La parole de Dieu doit être entendue par le peuple. Nous, on a un peu plus de mal à comprendre le latin, mais à l'époque, c'était la langue vernaculaire, si on peut dire. Le latin, c'était la langue compréhensible par les gens. Voilà. À Rome, en tout cas. Voilà. Après, on a aussi dans cette période les prémices du chant grégorien. Le chant grégorien, ça beaucoup à partir de Grégoire le Grand. Mais déjà, on a les prémices du chant grégorien. C'est là qu'il y a le chant liturgique qui se développe avec des modes, avec et c'est beaucoup des passages de la parole de Dieu, des psaumes, des antiennes, etc. Des versets de la Bible. Donc il y a tout un répertoire qui se développe. Alors à Rome, mais pas seulement à Rome, donc il y a un répertoire de chants aussi qui se développe à cette période-là. C'est aussi la période où apparaît le canon romain, donc la prière eucharistique numéro 1. Et donc c'est dans cette période que cette prière se fixe, on pourrait dire, et qu'il y a ce qu'on appelle des sacramentaires, c'est des livres de prière. Je pense qu'au début, il devait y avoir pas mal d'improvisation, etc. Mais petit à petit, ça se structure, ça se cadre, etc. Donc, alors, il y a d'abord la fixation du canon romain entre le 4e et le 6e siècle. Alors, il y a les éléments fondamentaux du canon romain, de la prière eucharistique numéro 1, qui sont déjà présentes au 5e siècle. Et voilà, et donc ça reflète aussi la manière de prier de cette époque. Et voilà. Après, il y a trois papes qui vont marquer la liturgie. Il y a Léon le Grand, qu'on a célébré en début de semaine, hein, qui est, donc avec un sacramentaire léonien. Donc il organise déjà les lectures hein, au fil de l'année, il organise des préfaces avant la prière eucharistique. Donc ça, c'est plein d'éléments qui vont petit à petit enrichir. Après le siècle suivant, en tout cas, oui, un petit peu plus tard, au fin du 5e siècle, je crois que c'est Saint Gélase. Donc, il y a des prières d'ouverture. Dans la messe, vous savez, il y a une antienne d'ouverture. Après, ce qu'on appelle quelquefois la collecte, c'est la prière juste avant les lectures, hein, que dit le prêtre. Après, il y a la prière sur les offrandes. Ça, ils appelaient ça la secrète, parce qu'elle était dite à voix basse. Et puis après, il y a la prière après la communion. Hein, donc, mais ça date de Saint Gélase, donc à la fin du 5e siècle. Donc vous voyez, ça se structure. Et après, le sacramentaire grégorien de Grégoire le Grand, donc ça, c'est à la fin du 6e siècle. Donc, c'est là qu'il y a des processions d'entrée qui chantent l'introït, hein, l'agneau de Dieu, etc. Enfin, et là, alors, ça, le chant grégorien se structure à partir de lui, on pourrait dire. Donc, il a pris son nom. Voilà. Alors, on arrive à la quatrième époque, c'est l'époque carolingienne, du 8e au 11e siècle. J'ai un peu élagué pour retenir que les choses qui me paraissaient les plus notables, sinon on peut se perdre dans les détails. Et puis, voilà. Là, la liturgie romaine s'est bien développée, mais justement, il y a un apport des Gaules, on va dire, et des Francs, plus exact. Voilà, c'est Charlemagne, qui est à l'origine, hein, beaucoup Charlemagne, qui va chercher à unifier le culte. Les rois carolingiens et Charlemagne vont unifier le culte pour consolider l'unité politique et religieuse de leur empire. Alors, comment Charlemagne s'y prend ? Charlemagne va aller chercher à Rome ce qui se fait à Rome et il va essayer de l'exporter partout dans son empire. Hein, pour que ça soit le... Mais au passage, justement, il y aura un peu d'inculturation par rapport à ce qui se faisait. Donc, ça sera la liturgie latine va prendre une note différente. Elle va s'incarner dans les différentes cultures qu'elle va rejoindre. Là, on voit aussi l'importance, là aussi, combien, quelque part, le pouvoir politique a pu avoir des influences, alors pas sur la liturgie elle-même, on pourrait dire, mais il y a des décisions politiques qui ont des conséquences, comme la décision au IVe siècle de Constantin de reconnaître l'Église catholique. Alors, du coup, ça a eu beaucoup de conséquences, mais là aussi... le fait de vouloir importer cette liturgie dans les différents lieux, ça a beaucoup d'importance. Alors, là, je retiens trois éléments. D'abord, donc, Charlemagne demande à Adrien Ier, au pape, d'envoyer à Aix-la-Chapelle un exemplaire officiel du sacramentaire grégorien, donc il part vraiment de ce qui se fait à Rome. Et après, donc ça devient la base de sa réforme. Alors du coup, voilà ce que les Francs vont ajouter, avec leur sensibilité, leur prière, etc. Alors ils vont multiplier les préfaces et les oraisons. Donc ils vont introduire des bénédictions rituelles pour l'eau, les cierges, les rameaux, les huiles. Ils vont développer le cycle liturgique, l'Avent, le Carême, le temps pascal. Ils vont enrichir le rite de l'offertoire avec une procession des prières d'offrande. Ils vont davantage utiliser l'encens, les processions, encore une fois, le chant. Alors, quelqu'un qui était peut-être un peu comment dire, Chauvin, voilà ce qu'il dit. Ce qui était simple à Rome devint solennel chez nous. On ajouta la beauté des rites pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas s'il était tout à fait humble, mais bon. Mais du coup, ça, voilà, on voit que la liturgie prend de l'ampleur aussi au passage, voilà, et un enrichissement des uns et des autres, c'est intéressant. Dans cette période, c'est aussi la naissance ou le développement du chant grégorien. Alors, à partir du milieu du 8e siècle, les chantres de Rome traversent les Alpes et à ce moment-là, la transmission ne se fait que par oral pour les chants. C'est que on voit que ça implique un certain nombre de choses. Parce que dans les livres liturgiques, il y a les textes des chants, mais il n'y a pas les mélodies à ce moment-là. Donc, ils vont adapter les mélodies en fonction des gens qu'ils vont rencontrer. Et alors, Charlemagne, il va s'appuyer sur les monastères aussi. Ça va être... donc, après, la musique va être codifiée, en quelque sorte, etc. Et du coup, il y aura des... c'est la lente introduction au XIe siècle de la portée avec des lignes permet une plus grande précision dans la transmission des mélodies. Hein, on voit que voilà, les choses se sont vraiment organisées. Et troisième élément de cette époque carolingienne, c'est l'architecture. Au début, il y avait les grandes basiliques à Rome qui sont empruntées des païens. Hein. La basilique, au point de départ, ce n'est pas un bâtiment chrétien, mais ils trouvaient que ça s'adaptait bien pour les chrétiens, donc avec les nefs, une abside, donc celui qui préside, on le met dans l'abside. Mais au début, les basiliques, c'était pas chrétien, mais ils ont employé et puis après, ils ont adapté. Mais quand ça arrive... justement, chez les Carolingiens, alors les églises, elles vont plus forcément ressembler aux basiliques romaines. Hein, donc, là aussi, il y a des chœurs, il y a des transepts, il y a des autels secondaires. Là aussi, on voit petit à petit aussi, les bâtiments sont là aussi pour, en fonction de l'usage qu'on en fait. Alors, à certains moments, c'est devenu important de voir l'Eucharistie. Donc, on surélève l'autel, on fait en sorte qu'on puisse voir le Saint-Sacrement, etc. C'est aussi à cette période que se développe beaucoup le culte des reliques, hein, les pèlerinages, etc. Donc, quelquefois, il faut des déambulatoires, etc. pour pouvoir... voilà. Donc, l'architecture s'adapte justement à la liturgie telle qu'elle est vécue à ce moment-là. Ça va encore ? Alors, on arrive à la cinquième étape, le Moyen-Âge et la codification médiévale. Alors, c'est là que les choses vont se préciser encore. Hein. Vous voyez, il y a tout un mouvement. La liturgie romaine va devenir davantage universelle, codifiée, centrée sur le prêtre célébrant. Hein, ça prépare déjà la messe tridentine, la messe de Saint-Bucinq. Alors, cette année, je propose d'étudier simplement la messe selon le rite romain. Hein, la messe, on peut la célébrer selon d'autres rites aussi. Hein. Là, le rite romain, en tout cas pour nous, c'est celui qui est le plus connu, mais la messe peut être célébrée dans d'autres rites. Hein. Alors, la tendance a été toujours... on a tendance à chacun faire sa sauce, si je peux m'exprimer. Donc, c'est toujours de réunifier, ça toujours. Et puis, alors, il y a eu plusieurs époques, je me suis pas arrêté tellement là-dessus, mais Charlemagne, il voulait réunifier hein, toutes les manières de célébrer, etc. Donc, abandonner certaines manières de célébrer pour qu'on. Alors, le rite romain a cet avantage d'être quand même sur toute la terre. On a le rite romain qui est célébré. Et là, ça s'accentue à cette période-là. C'est à ce moment-là, entre le XIIe et XIIIe siècle, que naît le missel, un missel complet. Alors, votre missel, il date de cette époque. Enfin, dans son origine, il date de cette époque-là. Avant, il y avait plusieurs livres. Il y avait le sacramentaire avec toutes les prières du célébrant. Il y avait le lectionnaire avec les lectures. Il y avait le graduel pour les chants, l'antiphonaire, tout ça. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui, voilà, on réunit. Et pourquoi ? Alors après, c'est amusant aussi, c'est des circonstances très concrètes. C'est la naissance des ordres mendiants. Donc les ordres mendiants, ils vont sur les routes et tout ça. C'est plus les moines dans leur monastère. Alors il y en a toujours, mais... Et pour aller sur la route, ils ont besoin d'avoir tout pour célébrer la messe. Donc ils font des missels. Donc c'est comme ça qu'apparaît une missel avec les franciscains notamment. Et les dominicains, donc c'est à eux qu'on, en quelque part, qu'on doit les missels. Et donc, par ailleurs, donc ils vont développer aussi, tout le monde va trouver ça bien pratique. Et du coup, c'est comme ça que le missel s'est répandu, alors qu'il y avait des gros livres pas très transportables jusque-là. Et dans cette période, toujours, il y a aussi un accent petit à petit qui sera confirmé par le Concile de Trente, sur la dimension sacrificielle et sur la présence réelle. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est dépendant aussi des événements qui surviennent, de la mentalité d'une époque, etc. Et à ce moment-là, à partir du XIe siècle, il y a quelques controverses sur la présence réelle. Comment Jésus est présent au Saint-Sacrement ? Et alors, du coup, il y a une réflexion des théologiens, Saint Thomas d'Aquin, entre autres. Hein. Alors, le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus, même si les apparences restent les mêmes. Et alors, c'est vers 1200 qu'on va introduire, justement, pour exprimer cette foi en la présence réelle, l'élévation. Jusque-là, il n'y avait pas l'élévation. Pendant la scène, Jésus n'a pas élevé forcément le pain. Voilà. Mais à ce moment-là, c'était pour présenter à l'adoration de tous ceux qui participaient à la messe. Donc, il y a des gestes liturgiques qui vont être... voilà. C'est aussi l'époque où, justement, pour affirmer aussi la présence réelle, c'est des premières processions de la fête Dieu. Hein, c'est à cette époque, justement, pour... C'est comme une profession de foi en... Oui, c'est vraiment Jésus qui est présent. J'arrive à ma sixième et dernière étape. C'est la réforme liturgique de Saint Pie V après le Concile de Trente. Hein, donc, là aussi, vous sentez que ça ne vient pas de nulle part aussi, cette réforme liturgique. Alors, c'est le Concile de Trente qui a posé les fondements, et puis Saint Pie V qui a été chargé de mettre en œuvre ce qu'avait dit le Concile, et de faire un nouveau missel, etc. Donc, la messe qu'on appelle de Saint Pie V. Hein, mais surtout, Saint Pie V ne va pas créer tellement quelque chose, il va plutôt fixer, unifier, codifier la liturgie romaine. Hein, et ça... dans ce contexte de la contre-réforme, hein, donc il y a la réforme, Luther, Zwingli, Calvin rejettent la notion de sacrifice, ils voient plutôt un repas commémoratif. Alors ils disent non, c'est pas forcément la présence réelle, mais un symbole, voilà. Donc il y a, c'est la contre-réforme, hein, qui se fait jour à ce moment-là, donc. Pour prendre le contre-pied de Luther, ben on affirme encore un peu plus, si c'est vraiment un sacrifice, vraiment, le Seigneur est vraiment présent, ce n'est pas juste un symbole, etc. Et aussi par rapport au prêtre, hein, c'est le prêtre, dit le Concile de Trente, agit in persona Christi, hein, ce n'est pas un simple président de l'Assemblée, mais il rend Jésus présent, il est à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, donc, suite au Concile de Trente, Pie V est chargé de revoir un peu tous les livres liturgiques. Alors, je vais... quatre choses qui vont se faire... D'abord, il y a un travail d'unification, Alors, ça s'est déjà fait à d'autres périodes. Charlemagne a déjà un peu unifié ce qui se faisait. Et là, de nouveau, réunification. Alors, parce qu'il y avait des usages à un rite lyonnais, ambrosien, dominicain. Voilà. Alors, donc, le but, c'était qu'il y ait une seule manière. Bon. Ils ont quand même accepté que tous les rites qui avaient plus de 200 ans d'âge, on les garde quand même. Donc, il y a encore le rite ambrosien, il y avait encore le rite lyonnais, alors je ne sais pas où il en est maintenant, Père Jean, qui était là, je crois qu'il a célébré dans le rite lyonnais avant de... Voilà. Voilà. Et du coup, donc il y a une uniformisation du calendrier liturgique, des oraisons. On clarifie aussi le propre des saints et du propre des temps. Hein, donc tout ça, ça se clarifie bien. Et du coup, après le missel est imposé à toute l'Église latine, afin que tout le monde catholique se conforme à un seul et même rite, nous ordonnons que nul ne soit tenu d'utiliser d'autres missels que celui que nous avons édité. Hein, donc, c'est clair, c'est le missel par excellence. Donc, il y a tout ce travail d'unification. Il y a aussi un travail de fixation, on va dire, parce que tout au long des siècles, il y a des éléments qui se sont rajoutés, etc. Et du coup, donc là, ça rentre vraiment dans le détail, beaucoup plus dans le détail, tous les gestes que doit faire le prêtre, etc. La part de fantaisie est quand même très limitée, parce que donc c'est ce qu'on appelle les rubriques, donc on précise bien. Alors, ce qui a quelque chose de beau aussi, parce que c'est sacré, on fait pas ce qu'on veut, c'est pas laissé à notre fantaisie. Mais du coup, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus rigide, un peu plus. Donc, c'est 1570 environ 1570. La bulle du pape Pie V, c'est Quo primum tempore de 1570. Alors, donc, il y a toute la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique, avec bien fixé, puis la conclusion avec le dernier évangile. Alors, ça c'est un deuxième élément, hein. Il y a l'unité, le fait de fixer, de bien préciser tout. Troisième élément, c'est le prêtre a une place beaucoup plus centrale qu'à certaines époques. Centrale, mais en même temps, le prêtre, il n'est pas face aux gens à ce moment-là, mais il est en avant de son peuple, mais il peut dire la messe et puis les gens font un petit peu autre chose pendant la messe. Enfin, ils peuvent s'associer, mais quelquefois en disant le chapelet ou ce qui n'a rien contre la foi et les mœurs. Hein, mais du coup, on verra après, du coup, qu'un désir qui a été assez fort à partir de la fin du 19e, c'est que le peuple puisse participer davantage et soit pas moins spectateur en quelque sorte. Hein, même si participer, ça ne veut pas forcément dire faire quelque chose, hein, ça ne veut pas dire voilà, prendre la place du prêtre. Ou, voilà. Mais du coup, là, vraiment, le saint sacrifice de la messe, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent aussi dans la messe de Saint Pie V, où on insiste passablement sur l'aspect sacrificiel, à juste titre, hein, mais peut-être en soulignant moins d'autres aspects de l'Eucharistie. Et puis, quatrième chose, je crois aussi, de stimuler le sens du sacré. Donc, tout ça, la finalité, c'est vraiment d'aider au sens du sacré. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai aussi dans cette messe de Saint Pie V, avec le latin, etc. Et sur la dignité du culte, etc. Et du coup, ça c'est quelque part, on atteint un certain sommet, hein, et ça va. Il n'y aura pas beaucoup de changements. Hein. Je vous ai dit 1570, hein, jusqu'en 1962, vous calculez 4 siècles, il n'y aura pas de grands changements. Ça sera le missel de Saint Pie V. Hein, donc on voit que c'est quelque chose qui était important et qui. Et Benoît XVI disait, c'est une forme vénérable et ancienne du même rite romain qui n'a jamais été abrogé. Hein, donc il ne s'agit pas de déprécier la messe de Saint-Pie V. Mais alors, du coup, alors là j'introduis déjà presque un petit peu l'enseignement de la foi prochaine. Vous pourrez lire éventuellement, si ça vous intéresse, il y a Ratzinger donc, a écrit un livre qui a eu pas mal de succès, « L'esprit de la liturgie ». C'est pas un très très gros livre. Et dans l'avant-propos, voilà ce qu'il dit. C'est au début de mes études de théologie en 1946 que je découvris le premier livre de Romano Guardini, « L'esprit de la liturgie ». Alors, il a été considéré comme le point de départ du mouvement liturgique en Allemagne. Il contribua de façon essentielle à la redécouverte de la liturgie dans sa beauté, sa richesse cachée et sa grandeur à travers les siècles, comme centre vivifiant de l'Église et de la vie chrétienne. Il ouvrit le chemin à une célébration de la liturgie plus substantielle, pour reprendre une expression chère à Guardini. Grâce à une meilleure compréhension de sa forme intérieure et de ses exigences, on réapprit à voir dans la liturgie la prière de l'Église, mue et dirigée par le Saint-Esprit lui-même, prière dans laquelle le Christ nous est rendu présent de façon constante et renouvelée, par laquelle il entre dans notre vie. Alors donc, il prend l'image d'une fresque, très bien conservé, mais après le travail justement ça a été de décaper un peu la fresque, mais il ne faut pas perdre en décapant qu'on aille un peu trop loin. Bon, je simplifie pour que ça ne soit pas trop long, mais du coup c'est de retrouver, et c'était une finalité de retrouver le cœur de la messe au-delà de la beauté des rites et tout ça, mais d'entrer un petit peu au cœur pour qu'on vive la messe et qu'on s'associe vraiment au mystère qui se célèbre. Bon, c'est un peu bref ce que je vous dis, mais c'est un peu ça l'idée.